Bonsoir à tous.
Les titres de ce dimanche 22 mars.
Nous reviendrons sur le premier décès d'un médecin en France lié au coronavirus, un urgentiste de l'Oise. Son portrait et son parcours avec Daniel Messager. L'hôpital de campagne de Mulhouse est quasiment monté. Les premiers patients sont attendus en début de semaine. On verra quel type de malades peuvent être accueillis. Dans ce journal, on entendra aussi Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis à l'Assemblée, favorable à l'union mais pas sacré en ces temps de crise. Il faut continuer à faire vivre la démocratie, dit-il. Il était l'invité de Questions politiques sur Inter à la mi-journée. On parlera aussi de cet imbroglio italo-tchèque sur des masques chinois. L'Italie accuse Prague d'avoir détourné une livraison qui lui était destinée. Et puis ce soir encore, vous serez nombreux à applaudir les soignants et certains, vous l'entendrez, auront droit à un festival de musique de balcon. Ça se passe à Montreuil, près de Paris.
France Inter.
Alors que la France rend hommage tous les jours à 20h aux soignants, en première ligne, vous le savez, face au coronavirus, on a appris cet après-midi la mort d'un médecin, le premier depuis le début de l'épidémie dans le pays, Daniel Messager. Ce médecin était urgentiste dans l'Oise.
Ce médecin, Jean-Jacques Razafrindanazi, travaillait depuis plusieurs années à l'hôpital de Compiègne. Il a pris de plein fouet la vague de contamination dans le département puisqu'il était présent lors de l'arrivée mi-février d'un premier cas, un chauffeur travaillant comme civil sur la base militaire de Creil. Originaire de Madagascar, d'où il revenait de vacances il y a un mois, il était alors en pleine forme, dit son fils. Ce serait donc bien à la suite de contacts à l'hôpital qu'il aurait été infecté. À cette époque, les soignants ne prenaient pas encore toutes les précautions nécessaires. Tombé malade il y a 3 semaines, la détection de son infection avait entraîné la mise en quarantaine de plusieurs personnes. Il avait été hospitalisé à l'hôpital de Compiègne, puis transféré au CHU de Lille, son état se dégradant. L'Oise reste le département des Hauts-de-France le plus touché. Aujourd'hui, sa famille sur Facebook, en lui rendant hommage, renouvelle cet appel au confinement. Restez chez vous.
Daniel Messager, notre spécialiste santé et puis un troisième membre du gouvernement a été testé positif au coronavirus. C'est Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État, l'annonce elle-même sur Twitter. L'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, annonce le début d'un essai clinique européen en France. 4 traitements expérimentaux vont être évalués, notamment la chloroquine, un traitement qui suscite beaucoup de débats au sein même de la communauté scientifique et que Bruno Retailleau appelle à généraliser. On entendra le patron des sénateurs LR dans le journal de 19h. Le Conseil d'État va-t-il imposer au gouvernement des mesures plus drastiques pour lutter contre le coronavirus? C'est en tout cas ce que demandent des professionnels de santé qui l'ont saisi, réponse ce soir de la plus haute juridiction administrative. En attendant, la préfecture des Alpes-Maritimes impose un couvre-feu dans toutes les communes du littoral du département et dans toutes les autres villes de plus de 10 000 habitants, et ce, dès ce soir, de 22h à 5h du matin. Un décret a été publié et puis on ne compte plus les communes qui imposent des couvre-feux de façon individuelle à Nîmes, notamment à Alès, Bagnols-sur-Cèze, La Roche-sur-Yon, pour les dernières en date. Les liaisons aériennes sont suspendues entre la métropole et les Outre-mer à partir de ce lundi minuit et jusqu'au 15 avril. Arrêté publié aujourd'hui au journal officiel, les déplacements entre les îles sont aussi interdits, sauf en cas d'urgence. Le Parlement va boucler ce soir 4 jours de travaux intensifs et inédits, puisque tout s'est fait en comité restreint. Le projet de loi d'urgence du gouvernement doit être validé ce dimanche par les deux chambres qui viennent de trouver un compromis sur les derniers points de blocage. Et si tout le monde salue l'union sacrée qui a prévalu, il y a tout de même eu quelques dissonances et tensions pendant ces 4 jours. C'est tout à fait légitime, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est le rôle des oppositions. Le chef de file des Insoumis était l'invité de Questions politiques sur Inter à la mi-journée.
Je pense que nous, en tant qu'opposition, on doit d'abord maintenir le feu de l'esprit critique, du conseil, de la lumière, de ne pas être des inconditionnels. Donc l'union sacrée, si ça veut dire qu'on se sent solidaire de toute personne dans le pays, oui. Mais si ça veut dire que politiquement on se tait par une espèce d'obligation de se mettre en file, alors non, ça c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut continuer à faire vivre la démocratie. On est obligé de dire les choses, sinon on ferait tous preuve d'un silence que je qualifierais de complice. Une opposition sans acrimonie, hein, c'est pas toujours évident, mais en même temps vigilante et exigeante, voilà.
Jean-Luc Mélenchon avec Ali Badou et Karine Bécard. De son côté, le groupe Les Républicains à l'Assemblée annonce la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'automne pour tirer toutes les leçons de la crise. Les hôpitaux sont saturés dans le Grand Est, à Mulhouse notamment, où l'on attend beaucoup de l'hôpital de campagne monté ce week-end par l'armée sur le parking de l'hôpital civil Émile Muller. Alors il y a 30 lits en réanimation, il va donc falloir faire des choix. Explication avec le commandant Antoine du service de santé des armées.
On prendra plutôt des patients qui sont sur la défaillance respiratoire seuls pour les aider à les sevrer des ventilateurs pour ensuite retourner dans une unité de soins où ils auront juste besoin d'oxygène et pas de ventilation mécanique. Donc il y aura des allers-retours entre, bien sûr, notre structure et l'hôpital. Le parcours classique pourrait être qu'un patient rentre à l'hôpital, a sa première prise en charge à l'hôpital. Quand il s'améliore, il vient chez nous. Une fois qu'on l'a sevré des ventilateurs, il peut repasser dans une unité d'hospitalisation classique pour ensuite quitter la structure hospitalière. Bien entendu, si on était amené à avoir des patients qui se réaggravaient dans notre structure et que leur aggravation dépassait nos moyens de prise en charge, nous, notre priorité avec les équipes de l'hôpital, c'est la sécurité des soins et la qualité des soins qu'on délivre, la sécurité des patients, c'est de retransférer les patients vers l'unité plus adaptée de l'hôpital pour leur prise en charge.
Le commandant Antoine au micro, France Bleu Alsace de Patrick Genton. Cet hôpital de campagne devrait être opérationnel dès demain matin et après la phase de test, les premiers patients arriveront en début de semaine. L'armée au secours de l'hôpital d'Ajaccio aussi. 12 malades ont été évacués par un porte-hélicoptère de la marine cet après-midi pour être répartis dans 4 hôpitaux marseillais. En bref, à Montpellier, un homme a été condamné aujourd'hui à 8 mois de prison ferme. Il a été arrêté alors qu'il tentait de voler des masques et a craché sur des policiers. Et puis avec le confinement, des incidents se multiplient dans les prisons. 5 au moins rien qu'aujourd'hui à Longnes, dans le Pas-de-Calais, à Maubeuge, à Meaux, à Nantes ou encore à Carcassonne. La direction de l'administration pénitentiaire promet une réponse pénale ferme à l'encontre des détenus.
La pénurie de masques ne touche pas que la France, Alexandra. Toute l'Europe en manque et l'Italie règle ses comptes avec la République tchèque.
Oui, c'est une histoire assez étrange, il faut dire. Selon la presse italienne, les autorités tchèques auraient détourné 680 000 masques et des respirateurs. Les précisions de notre correspondant à Rome, Olivier Tosseri.
L'Italie se plaignait du manque de solidarité européenne pour l'aider à affronter la crise du coronavirus. Elle n'a pas entièrement tort. Un chercheur tchèque a averti des ONG d'un véritable scandale. Mardi dernier, son pays se vantait d'avoir réussi à saisir des masques et des respirateurs qui avaient été volés à des entreprises tchèques par des criminels sans scrupules qui voulaient les vendre à des tarifs majorés sur le marché international. Des photos et des vidéos démentent cette explication. À bord des camions de la police douanière figurent des cartons estampillés des drapeaux italiens et chinois sur lesquels sont inscrits « Aide humanitaire chinoise pour l'Italie ». Le gouvernement tchèque a admis la vérité ce dimanche, affirmant que ce matériel provenait bien de la cargaison de la Croix-Rouge chinoise destinée à l'Italie, sans préciser comment elle s'était retrouvée sur son territoire. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur tchèque a fait son mea culpa. Il regrette ce malentendu et assure être en train de discuter avec les autorités chinoises pour résoudre le problème. En attendant, les hôpitaux du nord de l'Italie manquent toujours cruellement de masques. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et Olivier Tosseri le disait à l'instant, l'Italie se plaint du manque de solidarité européenne. Eh bien, Cuba et la Russie, eux, répondent à l'appel et envoient des délégations de médecins et de spécialistes dans le pays où l'on compte ce soir près de 5000 décès. En Espagne, on recense 1700 morts. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez va demander au Parlement de prolonger de 2 semaines l'état d'urgence et le confinement. La Grèce décrète un confinement général à partir de demain. L'Allemagne, de son côté, interdit les rassemblements de plus de 2 personnes. Les premiers décès ont été recensés aussi en Afghanistan et en Roumanie. Aujourd'hui, quant aux États-Unis, ils promettent un gigantesque plan d'aide aux entreprises, 4 000 milliards de dollars de liquidités. Et puis, 113 000 Français sont toujours bloqués à l'étranger ce soir, chiffre donné par Anne Genetet, la députée La République En Marche des Français de l'étranger. Elle indique que le Quai d'Orsay doit négocier encore avec plusieurs pays, notamment le Vietnam et Singapour, pour organiser des rapatriements. En France, depuis le début du confinement, il y a 6 jours, les Français, vous le savez, sont invités à rendre hommage aux soignants chaque soir à 20h depuis leur fenêtres et leur balcon. Eh bien, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, il y a double dose d'applaudissements. La mairie a lancé hier le festival Musique au balcon. Elle invite les musiciens pros et amateurs à jouer pour leurs voisins. Stéphane Capron, hier soir, c'était l'accordéon à l'honneur pour le premier concert.
Carine Huette est accordéoniste professionnelle. Elle habite au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et hier soir, derrière les grilles de sa fenêtre, elle s'est préparée, comme elle le fait pour chaque concert, avec la boule au ventre.
Ça a été très surprenant de ressentir le petit stress d'avant-concert alors qu'il n'y avait pas grand monde devant mes fenêtres. Et j'entendais tous ces applaudissements de très loin. Donc c'était assez surprenant. Et dans ce temps de confinement, je pense qu'on est dans l'hyper-émotion parce que comme on ne vit pas grand-chose, aussitôt qu'il se passe quelque chose, et tout s'amplifie. Donc c'était un petit peu ça.
La ville de Montreuil est en train de recenser tous les musiciens professionnels et amateurs pour organiser tous les soirs ce premier festival de musique confinée. Le maire, Patrick Bessac, veut ainsi rompre l'isolement des habitants et conserver du lien social.
sortir sur son balcon, mettre sa compétence de musicien, son art, son inspiration au service de la communauté. Je trouve que c'est très très beau. On a besoin de la parole des artistes, des créateurs dans ce moment. Et à nouveau, ça se fait en toute sécurité, en toute convivialité, sur un balcon. Offrir ce qu'il y a au fond de plus beau, de la musique, de la poésie.
La ville de Montreuil a aussi choisi de rémunérer avec un petit cachet les musiciens professionnels, tous intermittents, une façon de soutenir les artistes précaires qui vont souffrir dans les semaines à venir.
Et voilà donc pour ces notes d'accordéon hier dans le bas Montreuil. Ce soir, c'est flûte et slam dans le haut Montreuil, juste après l'hommage aux soignants, à 20h donc.
C'était le journal d'Alexandra Dubouchon. Allez, pour mieux mettre le nez à la fenêtre et jouer de l'accordéon ou de la flûte à nos soignants, on prend des nouvelles du temps. C'est avec Jean-Michel Golinski.
Une France coupée en deux ce lundi au niveau du temps sensible et des températures, avec un ciel souvent tout bleu du lever au coucher au nord d'une ligne passant par la Charente, la Creuse et l'Ain, a signalé tout de même un ciel d'allure plus maussade pour le Finistère et des températures souvent voisines de 0 à moins 2 degrés en fin de nuit. Plus au sud, ce sera un copier-coller de la veille, c'est-à-dire un temps qui deviendra vite variable en toute région au cours de matinée et souvent menaçant l'après-midi sur les massifs avec à la clé des averses à connotation orageuse dans des températures maximales de l'ordre de 15 à 19 degrés contre les 10 à 15 prévus sous le soleil de la moitié nord.